Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM, 20h pétante en ce dernier jour de la semaine. Et oui, pour toute l'équipe de Time Sport, vendredi soir, vendredi 6 octobre 2023, on est ensemble avant d'accueillir Vanessa comme il se doit à 21h, 23h. Et aussi un petit au revoir à Adil qui passera son bon week-end et qu'on retrouvera sur les ondes de Beurre FM dès lundi avec toute son équipe des informés, 19h, 20h. Au menu de cette émission, on va parler de quoi au programme? Alors justement, Marseille n'y arrive toujours pas dans cette fameuse Europa League. Cette coupe, non pas aux grandes oreilles, mais cette coupe d'Europe, justement. Rennes versus le Paris Saint-Germain, c'est la Ligue Uber Eats qui nous attend ce week-end. Un petit clin d'œil aussi à notre consoeur Marie, supportrice des Rennais. Ça lui fera tant plaisir, justement, qu'il nous écoute ce soir. Et on n'oubliera pas Verstappen du côté du Qatar. Et oui, avec ce fameux Grand Prix ou les Alpines. On en parlera avec l'équipe de Time Sport ce soir au 01 53 48 3000. Voilà, vous n'oubliez pas. C'est le numéro du standard, le débat du jour. Le débat du jour, justement, selon vous, ce qu'il faut revoir sur le système Luis Enrique. Voilà, c'est quoi? C'est des joueurs, c'est peut-être le schéma tactique. On va en parler avec vous, chers auditeurs, chères auditrices, et notamment aussi sur les réseaux sociaux. On rappelle que vous pouvez réécouter toutes vos émissions préférées de Beurre FM et de vos animateurs aussi, ainsi que de toutes vos consultantes, vos consultants sur le site beurrefm.net et sur son application. Allez, c'est parti. On va présenter la fine équipe qui m'accompagne, rétrécie ce soir, et oui, c'est vendredi soir, mais qui est toujours là, rien que pour vous.
Time Sport. Time Sport. Il est pour parler.
On sera en compagnie de notre consultante Alison, mais ce soir, on est avec Mathieu, en tête à tête, du moins, oui.
Salut Bilal, comment ça va?
Ça va, tranquillement Mathieu?
Très très bien, très très bien.
Ça
il y a
bien.
Un bon programme ce soir et on va parler de Formule 1, donc ça fait plaisir
la
aussi.
La Formule 1 aussi, les sports mécaniques, le goudron du côté du Qatar. Eh ben voilà, faut en parler, justement, c'est cette fin de saison, sans oublier aussi cet Olympique de Marseille. Que s'est-il passé du côté de la Canebière, dans son antre qui est l'Orange Vélodrome? Allez, un petit clin d'œil aussi, le petit coucou ce soir à la réalisation, la personne de Solal. Buonasera, Solal, comment ça va?
Buonasera a tutti, j'espère que vous allez bien. Bah écoute, ça va super bien, l'émission avec Adil c'est top passé, franchement super intéressant, en espérant que voilà, l'émission Time Sport se passe,
ça se passe
aussi bien.
Bien
et voilà.
Ça c'est cool, ça se passe toujours bien l'émission de Time Sport, dans la joie, la bonne humeur, voilà, dans votre salon ou même dans les transports, vous nous écoutez ou en voiture, voilà, ou à l'approche peut-être, je sais pas, vous êtes en partance à l'étranger ou même à travers le pays, et ben vous branchez sur la radio de la diversité, votre radio préférée qui est Beurre FM. Et justement, sans plus tarder, on va aborder le premier dossier. On va même donner, allez, il va se faire plaisir ce soir, Solal, la parole à notre réalisateur. Mais Mathieu, je me retourne vers toi. C'est vrai que il a été décrié l'arbitrage hier soir, On a été rattrapé, quand je dis on, c'est les clubs français, justement, ce club qui est l'Olympique de Marseille, par un certain club anglais, Brighton. C'était pas le carnage, plutôt le carton plein de Newcastle, mais 2-0 et l'OM est remonté. On n'y arrive pas, décidément, du côté de Marseille.
Ouais, l'OM fait une super première mi-temps. Je dirais même que c'est la meilleure première mi-temps de l'Olympique de Marseille cette saison pour l'instant. La patte Gattuso, j'ai envie de dire, parce que voilà, il y avait énormément d'intensité, de la grinta, et même Gattuso sur le banc, dès qu'il y avait un tacle, il allait taper dans les mains de ses défenseurs.
Il
demandait au public de faire un peu plus de bruit, même s'il y avait déjà beaucoup beaucoup de bruit.
Ouais, l'ambiance assez chaude.
La première mi-temps, elle est presque parfaite, avec Paul Lopez qui fait deux super barrets juste avant la mi-temps, qui fait du bien d'ailleurs. Et en deuxième mi-temps, Brighton déjà a mieux joué.
Ouais.
Et puis l'OM a baissé un peu de pied physiquement, j'ai envie de dire. Et le petit bémol que j'ai envie de dire ce soir, c'est...
Alors c'est quoi, justement?
Je trouve que les remplaçants n'ont pas apporté en termes d'engagement par rapport aux titulaires.
Ouais.
Je pense par exemple à Unai que j'aime beaucoup. Mais là, quand il est rentré, il a pas ramené cette grinta, parce qu'il a beaucoup de ballons, il est très fluide. Et là, je trouve qu'il a ralenti un petit peu le jeu et ça n'a pas été sa meilleure performance sous la tunique phocéenne.
Ouais, on n'a rien compris justement. C'est vrai que Gattuso, l'entraîneur italien, disait que justement cet Olympique de Marseille avec ses joueurs, je sais pas, il sous-entendait que certains joueurs étaient assez fatigués au-delà de la 60e minute de jeu et que c'était pas normal. Peut-être d'où cette préparation, cette mauvaise préparation. Ouais, une préparation lunaire. On nous dit. Avec Marcelino, mais sur certains groupes de supporters ou même ce que l'on sous-entend sur les réseaux sociaux aussi.
Oui, après, ouais, il a envoyé un sacré tacle à son prédécesseur qui est Marcelino.
Oui, ça rigole pas.
Que, voilà, les joueurs avaient 60-65 minutes dans les jambes, pas plus. Et on l'a clairement vu hier soir.
Oui.
Même si voilà, tu parlais de l'arbitrage, on va pas reparler de l'arbitrage.
Ça
parce
a fait.
Que on ne sait pas parce que voilà le défenseur prend le ballon, mais c'est vrai qu'il y a un excès d'engagement. On a vu la chute de Minarite.
Ouais. Ah ben, Minarite, justement, on a eu des nouvelles rassurantes hein, concernant l'international marocain Minarite.
C'est tant mieux, surtout. Ouais. Surtout
ça fait plaisir à Marseille, ça.
Surtout qu'il revient de loin. Il a raté la Coupe du Monde l'année dernière à quelques jours près.
Oui.
Donc, plus de peur que de mal, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que. Au vu du ralenti, c'est assez flagrant qu'il prend le ballon et qu'il y a un excès d'engagement. Il n'y a même pas eu de faute, ça n'a même pas été signalé à la VAR. Parce que voilà, en voyant l'action à vitesse réelle, ça va très très vite. Et c'est vrai que bon, le fait que l'arbitre ne siffle pas sur le coup, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais c'est vrai qu'en voyant les images et avec toutes les images qu'ont le quart de la VAR, le fait qu'il n'ait pas appelé la VAR, c'est assez incompréhensible maintenant. Je trouve que c'est un peu facile aussi de mettre ça sur le compte de l'arbitrage.
Ça reste assez.
Même, tu parlais tout à l'heure du Paris Saint-Germain contre Newcastle.
On va revenir sur
le deuxième but aurait pas dû être accordé avec cette main, mais c'est compliqué de remettre toute la faute sur l'arbitrage aussi.
Oui, il y a pas mal de matchs qui se déroulent ce soir justement, hein, à travers le globe aussi. On a Al Ittihad face à Al Ahly, hein, justement, et aussi Al Nassr face à Haba, où le score est deux partout, et le fameux match entre, justement, où on va apercevoir un certain CR7 face à Riyad Mahrez. Justement, ça c'est pour la petite info concernant le football en Asie. Aussi, le football sud-américain, c'est avec Boca Junior et une place en finale de la Copa Libertadores avec Edison Cavani. Mais sans plus tarder, on va rester sur l'Olympique de Marseille. On a Yanis, notre jeune consultant depuis Rouen. Ah, d'ailleurs, on retrouvera Mohand dès ce week-end, dimanche, à partir de 18h jusqu'à 20h dans Fou de Sport. Le 01-53-48-3000, c'est Yanis. Bonsoir Yanis.
Bonsoir Bilal.
Bonsoir Yanis.
Oui, comment ça va Yanis?
Ben écoute, ça va, on est toujours là avec vous pour analyser l'actualité sportive et le beau programme que tu nous as préservé.
Ah ben justement, on a présenté ce magnifique programme et on t'en remercie Yanis. Réaction sur l'Olympique de Marseille. Marseille, malheureusement, n'y arrive pas, on a l'impression, mais ne fait pas de mauvaises prestations. Ça le fait, quoi. Mais voilà, ça manque de concrétiser, quoi, au final.
Voilà, comme tu l'as dit, Bilal, ça manque... Il manque quand même quelque chose, il manque quand même une étincelle pour faire revivre Marseille. On a vu que Gattuso a essayé vraiment de mettre sa patte en mettant le 4-3-3. On a vu Balerdi, on a vu Rongier qui a intercepté beaucoup de balles, on a vu Harit qui a joué en meneur de jeu. Même s'il y a eu un gros point noir, je pense que c'est quand même Joachim Correa qui a pas fait grand chose. L'OM a l'enchaîné deux matchs nuls en Europa League. Est-ce que c'est pas là, ce match-là face à Brighton, c'est pas deux points perdus? Je le pense que oui. Il y avait vraiment la possibilité de gagner, sachant qu'on sait que voilà, l'OM menait de 2-0. Mais aujourd'hui, je voudrais juste revenir sur un point qui peut même plus durer en championnat.
Alors, c'est quoi
le gardien de but, Bilal? Ouais. Justement, à l'Olympique de Marseille, depuis que Stéphane Mandanda est parti, on voit vraiment qu'il y a un problème au niveau de la cellule de recrutement et de la cellule des gazins, parce qu'on a Paulo Lopez et on a Robert Blanco, un jeune qui provient du Celta Vigo. Mais en fait, pour le niveau européen, Paulo Lopez, c'est vraiment faible. Et je me pose la question, comment ce joueur-là a pu passer par la Roma, et notamment on fait une demi-finale d'Europa League sous les ordres de Paulo Fonseca. Mais comme tu l'as dit, pour revenir sous l'OM, ça reste insuffisant, même si on commence à avoir des belles choses avec Gattuso. Un Gattuso qui est vraiment passionné, on le voit sur son banc, il s'agite, il crie, et c'est ça qu'on veut. Mais on veut plus d'exigence, excusez-moi, pour un club qui est l'Olympique de Marseille. Et puis ouais. Voilà, il y aura un match contre l'AEK Athènes, et là, il faudra vraiment gagner, parce que à un moment donné, il faut pas prendre des supporters olympiens pour des guignols si on veut pas revoir ce qui s'est passé.
Juste mon réaction avec Mathieu. On l'écoute, Mathieu.
Je suis pas du tout d'accord avec toi, et je trouve que t'es extrêmement sévère avec.
Alors sévère. Pourquoi?
Avec Paulo Lopez, parce que si Paulo Lopez n'est pas là hier, l'Olympique de Marseille perd tous les jours.
Bien sûr. Mais moi, quand je te parle de Paulo Lopez, c'est qu'en fait, Paulo Lopez, au vu de l'attention qu'il fait pour le moment de la saison dernière, ça reste irrégulier. Il y a beaucoup trop d'erreurs.
Et quand tu joues, Mandanda, il faisait pas d'erreurs?
Mandanda a fait des erreurs, mais Mandanda, il était présent quand même. Mandanda, c'est quand même l'histoire de Marseille. Alors que Paulo Lopez, on peut demander aux supporters marseillais, la plupart réclament son départ. Et ce que je demande, c'est voilà, un vrai gardien qui aime vraiment l'Olympique de Marseille et qui saura défendre les couleurs. Mais c'est vrai que Paulo Lopez, hier, a fait un bon match. C'est vrai que, comme tu l'as dit, Mathieu, s'il n'était pas là, bien sûr que le score aurait été plus sévère.
Oui. Justement, un score plus sévère. Marseille, on peut faire la comparaison à Paris, mais quand même pas dans la même situation que le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain au-dessus, effectif, quand même assez incroyable, Yanis, faut le rappeler. Mais Marseille qui n'arrive pas peut-être à trouver, et aussi qui a eu cette, je vais pas appeler ça une malversation, mais voilà, ce couac, cet imbroglio auprès des supporters, de sa direction, un peu moins avec ses joueurs. On sait plus où on en est, il faut aussi se redécouvrir. Et Gattuso peine à redécouvrir, on lui a laissé, Mourad en parlait, d'ailleurs il doit être à l'écoute, hein, Mourad, notre consultant, avec le coach Tollet, parler justement de cette fragilité de préparation des Olympiens pour cette nouvelle saison, et là l'Italien est en train de la découvrir. Yanis, il reste avec nous, on va faire réagir à la réalisation Solal justement, concernant oui. L'Olympique de Marseille.
Bien sûr, pour moi l'OM est encore malade, voilà, 5 jours après sa défaite en Ligue 1 face à Monaco 3-2, ils ont cruellement perdu face à Brighton. Il faut savoir donc, comme on répétait, au bout de 20 minutes ils menaient 2-0, ils ont très rapidement marqué. Après, moi, il y a un fait assez marquant, en tout cas pour un joueur de l'OM sur lequel j'aimerais revenir, c'est Jonathan Clauss. Jonathan Clauss qui a vécu une très drôle, enfin journée entre guillemets. Quelques heures avant le choc entre Brighton et l'OM, il est sélectionné en équipe de France, donc la joie a dû être immense pour lui. Et justement, durant ce match-là, c'est lui qui commet cette faute fatale qui a coûté un pénalty à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, Jonathan Clauss qui a dû un peu se remettre de ses émotions la journée d'après, mais voilà, c'est un fait assez intéressant.
Ouais. Après, je suis d'accord.
Alors Mathieu, avant de revenir à Yanis,
Solal, que c'est Jonathan Clauss qui fait la faute, mais il fait mine de rien quand même un très bon match.
Ah bien sûr, mais il a de l'engagement, tout à fait.
Et il commet la faute sur le joueur qui aurait dû prendre le carton rouge. Je vais pas en remettre une couche sur l'arbitrage.
Ouais. Mais faut en parler aussi, hein.
Mais voilà. Mais en tout cas,
de but partout, on le rappelle le score.
C'est,
hein.
C'est vrai que c'est lui qui fait la faute. Après, voilà, il fait un très très bon match.
Ouais.
Et tout à l'heure, Yanis, tu disais que deux points de perdu pour l'OM. À froid, maintenant que j'ai pu revoir le match, je peux te dire que c'est un bon point pour l'OM. Parce que, certes, il y a eu une très bonne première mi-temps, mais sans les 3-4 arrêts superbes de Paulo Lopez, l'OM aurait dû perdre ce match. Parce que Brighton a complètement changé de visage en deuxième mi-temps. Brighton a beaucoup mieux défendu. C'est procuré pas mal d'occasions, et sur la physionomie du match entier, Brighton méritait peut-être un peu plus de gagner ce match que l'Olympique de Marseille, donc c'est plutôt un point de gagné pour moi.
Un point de gagné. Ouais. Yanis, on va revenir avec toi, Yanis, c'est promis. On va reprendre Yanis de suite après la pause. On a le temps concernant cette large passe sur l'Olympique de Marseille, on le rappelle, hein, victime aussi d'un tacle violent lors du match nul entre cet OM et Brighton, le club anglais. Le score de but partout en Ligue Europa, Mine Harit a tenu justement à rassurer sur son état de santé. Voilà pour l'international marocain. Allez, une petite pause et on revient avec vous.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM. Eh oui, début de week-end, on espère pour toutes et tout le monde. Et en ce vendredi 6 octobre, 20h, 19 minutes, vous écoutez Beurre FM. On est ensemble avec justement la réalisation Sola, sans oublier notre consultant Mathieu et aussi la ravissante consultante Alison qui nous a rejoint. Beaucoup d'embouteillages, eh oui, dans Paris, il fait beau, hein. On nous a annoncé le beau temps, c'est pour ça.
Ah bah les gens essayent de. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir, on nous a annoncé le beau temps, la Coupe du Monde de rugby, les embouteillages. Ah bah
voilà, les matchs.
Bienvenue à Paris.
Le 15 de France face aux Italiens ce soir, faut pas l'oublier, hein, c'est le match. Et aussi, je tiens à m'excuser auprès de tout le monde, c'était Al Ittihad. Et aussi, face à Al Ahly Saoudi, c'est Benzema et non pas CR7 face à Riyad Mahrez. Voilà, c'est ça. Hein, et toujours 0-0 à la 19e minute. On parlait de l'Olympique de Marseille avec Yanis. Aminarit va mieux, Alisson. Marseille n'y arrive pas. C'est ce qu'on voilà. On en parlait avec tout le monde. Tu en penses quoi? Gattuso est assez remonté quand même avec cette préparation, soi-disant assez minime.
Oui, il a mis un petit tacle, un petit peu une petite pichenette dans l'oreille de Marcelino, hein, ouais. Comme quoi la préparation n'aurait pas été top, comme quoi les joueurs de l'Olympique de Marseille sont un petit peu à court de forme. Donc oui, c'est vrai, ça se voit un petit peu physiquement. Ça s'est vu hier que au bout de la 60e, ça commence à pêcher, ça commence à être assez soufflé. Voyez un petit peu quelques mains sur les genoux. C'est vrai que physiquement, on les sent un petit peu empruntés. Après, est-ce qu'on peut juger Gattuso pour l'instant? C'est difficile, ouais. Mais en tout cas, on peut juger de manière assez positive parce qu'on voit qu'il a insufflé un élan en tout cas de à cette équipe marseillaise. On voit qu'il a insufflé cette grinta, cette envie, les joueurs de Marseille ont envie de nouveau d'aller gagner. On le voit sur la pelouse qui a des attitudes positives, que en tout cas c'est un effectif qui pour en tout cas d'apparence paraît soudé et solidaire. Maintenant c'est encore assez juste et ça reste assez court parce qu'on voit que par exemple devant, à l'instar d'Aubameyang, on attend mieux de sa part. On voit que c'est un petit peu aussi, ça reste un petit peu brouillon. Il y a énormément aussi de blessés dans cette équipe marseillaise, il y a pas mal d'absents aussi, donc voilà, ça va venir petit à petit. On sent la patte Gattuso, faut lui laisser un petit peu de temps avec cette équipe marseillaise.
Ouais.
Il y a Pape Gueye aussi qui est
Mathieu avant de retrouver Yanis.
Il y a Pape Gueye qui est suspendu, qui a fait une super préparation. Et j'ai hâte de voir Pape Gueye rejouer avec l'Olympique de Marseille.
Ah bah, nous aussi. Yanis, réaction après celle de Mathieu aussi, de notre consultante Alison.
Bah, en fait, pendant la pause, j'ai continué justement mes recherches et j'ai revu quelques actions du but. Mais en fait, comme l'a dit Alison, l'OM a complètement craqué en fin de match. Et elle l'a dit, Alison, voilà. Et Gattuso a lancé un tacle à Marcelino, ce qui est complètement logique parce qu'en fait, c'est pas du tout le même système de jeu. Gattuso est plutôt adepte du 4-3-3 alors que Marcelino, c'était le 4-4-2. Et il a recentré Aminarit en tant que meneur de jeu. Mais je crois qu'on parle aussi de... Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a gêné quand même, c'est la condition physique des joueurs. Pour moi, ils n'ont pas été prêts. Et en fait, ce que je voulais dire à Mathieu, c'est que dans un sens... Peut-être que c'est pas 2 points perdus pour lui, mais dans un sens, pour moi, c'est 2 points perdus, parce qu'en fait, l'OM a craqué en fait en tout un match. Si l'OM n'avait pas craqué en tout un match, elle aurait remporté donc les 3 points, et ça aurait été un match moyen de la part des Marseillais, mais comme l'a dit Alisson, voilà, devant la queue Aubameyang, et je le disais encore avec vous au Pilel sur BRFM, voilà, il y a que Aubameyang qui est présent, et Aubameyang, je le rappelle, c'est pas un buteur pour la Ligue des Champions. Aubameyang, c'est un mec qui est fait pour l'Europa League. Mais aujourd'hui, il n'y a pas, honnêtement, il n'y a pas de joueur qui est capable de jouer en Champions League, mis à part quelques-uns dans les petits matchs. Ouais. Mais aujourd'hui, ça reste compliqué parce que, en fait, l'OM, elle est sortie contre le Panathinaikos en barrage de Champions League. Aujourd'hui, on parle d'essayer d'aller le plus loin en Europa League. Mais là, ça va être très, très compliqué parce que tout ce qui va se prouver de la suite, c'est qu'on va voir comment Gattuso va essayer de chercher sa première victoire et remobiliser ses joueurs, même s'il l'a déjà fait. Mais j'attends de voir surtout le match contre l'AEK Athènes. Parce que si l'OM perd ou fait un match nul là, pour moi, ça va être très très compliqué de se qualifier. Et même s'il se qualifie, la suite va être très très compliquée parce qu'on voit même que les petites équipes sont vraiment plus en forme que l'Inter de Marseille aujourd'hui.
Après, alors Mathieu, avec Alisson.
Après, tu parlais du match de l'AEK Athènes. Il y a déjà le match de dimanche contre le Havre.
Ouais.
Déjà,
de retour à Marseille,
qui est très important parce que le Havre joue bien au football. Il va falloir que l'OM eh ben, récupère du match d'hier, que l'OM soit fort dans les intentions, offensives et défensives. Maintenant, quand tu me dis que Pierre-Emerick Aubameyang est présent, je suis désolé, je suis plutôt d'accord avec Alisson pour le coup. Aubameyang, il n'est pas présent dans ce début de saison. Alors ok, il a failli qualifier l'OM contre le Panathinaikos et il a déjà mis 2 buts contre l'Ajax, mais hier soir, il n'est pas présent. Et devant ma télé, je demandais avec insistance la rentrée de Vitinha beaucoup plus tôt. Et quand Vitinha est rentré, il a failli marquer d'ailleurs un but magnifique. Mais tu disais que l'OM, ces 2 points de perdu, c'est vrai que quand tu regardes la physionomie, l'OM mène 2-0, l'OM fait 2 partout. Mais quand tu regardes la totalité du match, c'est plutôt un point de gagné. C'est plutôt un bon point pris parce que en face, il y a des adversaires et ça joue très très bien. C'est devant Newcastle par exemple, c'est devant Chelsea, mais bon, en ce moment tout le monde est devant Chelsea. Et Brighton a battu Newcastle 3-1 cette saison en championnat. Donc il y a un effectif en face, il y a du jeu, il y a du collectif et il y a surtout un très bon entraîneur aussi.
Et puis l'OM a craqué certes, mais l'OM n'a pas sombré. C'est pour ça que je suis d'accord avec Mathieu. C'est plutôt un bon point de prise, c'est-à-dire que c'est.
Ouais, voilà, et le prennent, c'est pas mal. C'est pas mal.
2-0 quand on mène 2-0 à ce niveau-là, c'est compliqué de se faire remonter et normalement ça ne doit pas arriver à ce stade-là et surtout quand on s'appelle l'Olympique de Marseille et quand on prétend justement à aller le plus loin possible en Coupe d'Europe. Ouais. Mais en tout cas, c'est là aussi où on voit justement l'empreinte Gattuso, c'est-à-dire que ça n'a pas sombré. C'est-à-dire que les 2 points, ils sont perdus mais il faut pas justement aller perdre les 3 points. Et c'est peut-être comme ça, un pas après l'autre, qu'on arrive à construire quelque chose.
Allez, on va. Yanis, petite réaction avant de revenir après à Chekib, notre consultant.
Non, mais bien sûr, je respecte l'avis d'Alisson et de Mathieu, c'est ça qu'il faut aussi, la diversité, c'est les opinions de chacun et chacune dans ce magnifique sport qui est le football. Après, juste pour revenir sur ce qu'a dit Mathieu, honnêtement, pour moi, le début de saison de l'OM, en tout cas, pour moi, l'un des meilleurs joueurs, ou lui qui sauve la baraque, ça reste Pierre-Emerick Aubameyang quand même. On peut pas nier, même si voilà, hier il a pas été très très présent. Voilà, ce mec-là, il dégage un truc quand même s'il n'a pas montré son plein potentiel. Mais voilà, c'est le seul qui sauve vraiment la baraque. Après, Gattuso a été énorme, exceptionnel en match, ça marche.
Mais Yanis, t'as regardé les matchs ?
Ouais.
Tiens.
Et tu me dis que Pierre-Emerick Aubameyang, c'est un des meilleurs cette saison.
Mais non, mais c'est celui qui sauve. Par ses buts, par son importance. Tu peux pas dire que Pierre-Emerick Aubameyang quand même. Ben voilà, puis il sauve l'OM des fois. Faut pas le nier.
Il qualifie l'OM et il a sauvé l'OM contre l'Ajax d'Amsterdam, c'est vrai, mais en championnat. Et hier. On l'attend dans les gros matchs.
Ouais. Il a marqué en Europe, mais il déçoit en Ligue 1.
Il a marqué en Europe, il a mis deux fois un doublé, mais en championnat, il est
à côté de la plaque.
Il est à côté de la plaque.
Totalement.
Et pour moi, le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille dans ce début de saison, c'est Jonathan Clauss.
Ouais, Jonathan Clauss, justement. On va garder Nice parce qu'après, on parlera du Paris Saint-Germain, c'est promis. On va basculer avec notre consultant Chekib d'Échec et Match avec ses fameux tweets qu'on peut retrouver sur le réseau social, justement. Bonsoir Chekib, comment ça va? L'OM, eh ben, n'y arrive
Bonsoir
pas.
À toutes et à tous.
Ça va bien?
Bonsoir. Oui, ça va très bien. Bon, moi, j'appelais juste pour réagir, pour dire que moi, je suis un peu mitigé. Je pense qu'il faut laisser du temps vraiment à l'OM. La saison aurait pu très bien commencer. Elle avait d'ailleurs bien commencé. Mais quand ils sont fait éliminer avec le Panathinaikos, je pense que c'était ça le vrai choc. Et à partir de là, on est rentré dans une crise, une confrontation avec les supporters. Il y a eu du changement, le président a failli partir, l'entraîneur est parti, un nouvel entraîneur est arrivé. Donc là, on est dans la stabilité et la recherche de l'équilibre. Donc il faut être encore patient. Le résultat d'hier, bien sûr qu'on est triste qu'il soit fait remonter de 2 buts. Mais c'est quand même une équipe très performante derrière qui les a remontés. C'est pas n'importe qui. C'est une des équipes qui est le plus appréciée aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle à l'instant présent en Europe, parce que c'est vrai que depuis quelques années, eux aussi, ils ont un très grand projet. Ça veut dire que chaque année, ils vendent leurs meilleurs joueurs et ils arrivent à être performants l'année d'après. Brighton, c'est une équipe que le monde entier, tous les spécialistes sont en train de regarder. C'est pas n'importe quel club en ce moment. Et en sortant là du présent de Brighton, il faut sortir aussi du présent de Marseille ou ne pas être focalisé sur l'état de forme du joueur aujourd'hui. Là, j'ai entendu, oui, Klos joue très bien en ce moment. Aubameyang a eu des matchs où il a bien joué, d'autres matchs où il est moins bien joué. C'est normal, c'est début de saison, il y a des réglages individuels pour chaque joueur et des réglages collectifs. Et surtout, la différence entre les deux entraîneurs, là, entre Marcelino et Gattuso, c'est un autre monde, une autre planète. Donc on ne peut pas, même si le haut niveau, il faut que ça aille vite, on ne peut pas exiger tout de suite des résultats. Mais moi, je pense que quand on regarde l'effectif, quand on regarde le coach, je pense qu'aujourd'hui, il y a une cohérence. Et moi, je suis très positif. Je pense que Marseille a déjà passé le plus dur de la crise, parce que c'était une crise très, très profonde. Là, c'est devenu un club normal. Et ils n'ont pas perdu en Europe. Ils ont fait deux matchs nuls. Et je pense qu'ils ont quand même l'effectif de, avec Ouani, avec Verretou, avec Rongier. Il y a des joueurs comme Mbemba ou Gigot qui, des fois, sont très bons. Des fois, ils sont moins bons. Donc, il faut être patient. Je pense que chacun va se retrouver et qu'on aura une belle saison. Très vite, dans un mois, on en reparlera. Ouais. Je pense que dans un mois, déjà, Marseille montrera un autre visage. Ouais. Alors, il est difficile de dire qu'ils vont arriver dans les quatre premiers, ouais, mais je suis sûr qu'ils feront une belle saison.
Belle saison de la part des Marseillais. Ben justement, Lanasser qui écoute et qui dit très belle analyse, tout comme Mourad, hein, de Chekib, des Chekema, tiens, voilà, on le rappelle. Chekib, on va le garder encore avec nous. On a été rejoint par un ancien collègue, bien sûr, de l'aventure de Time Sport qui était avec nous à ses débuts. Ce n'est autre que Bruno Aouyo, eh oui, Bruno qui est avec nous, hein. On le rappelle, hein, qui collabore et qui travaille aussi avec nos confrères de BBC, de, y en a trop, hein, Sky Sport aussi, Eurosport, France. Bruno, comment ça va?
Salut Bilou, ça va bien. Ça va et toi?
Tranquillement. Ravi, ouais, d'être Bruno. Là. Ah ben nous aussi, Bruno, de t'avoir avec nous justement pour réagir concernant l'Olympique de Marseille. Eh oui, l'Olympique de Marseille qui n'arrive pas. On a vu ce nouveau changement de coach avec Gattuso. Tu penses quoi, Bruno, de cet OM?
Bah, c'est clair que physiquement ils sont pas prêts. Enfin, ils ont tout raté en fait. Le choix de Marcelino a tout conditionné. Déjà, ce 4-4-2 à plat, moi, j'étais pas convaincu, en plus du recrutement, etc. Et là, Gattuso, bah, il doit tout reprendre, quoi. Donc,
c'est compliqué pour lui.
C'est compliqué. Heureusement que le début de saison est pas totalement raté non plus. Mais, malheureusement, c'est comme ça. Quand vous vous trompez sur le coach, sur la philosophie de jeu et sur le recrutement, bah, vous mettez beaucoup de temps à vous en remettre. Et il faudra voir aussi ce que Gattuso veut mettre en place.
Ouais. À qui la faute, justement? Peut-être la préparation, la mauvaise préparation. Ça fait du bruit maintenant sur Marseille, Bruno, les supporters, mais pas que. Oui, peut-être Marcelino, c'était quand même assez du gâchis. Mathieu, Bruno, bah après, Alisson, c'est vrai qu'on en parle, mais il faut le dire, quoi.
Les supporters, il s'est passé ce qui s'est passé.
Ouais.
Voilà.
Laissons les supporters.
On nous dit que les joueurs ont fait abstraction de ça. Je pense qu'il y a quand même ils y ont pensé quand même un petit peu. Je pense que c'est pas anodin, surtout dans un club comme l'OM. Maintenant, c'est vrai que la préparation, bah, c'est vrai que à chaque match, on voit que les 30-35 dernières minutes sont très très compliquées. Et Gattuso l'a rappelé hier en disant que voilà, ils avaient 1 heure 65 minutes dans les jambes, pas plus. Donc c'est vrai que physiquement, c'est très compliqué. Il va y avoir la trêve internationale juste après ce week-end, donc ça va faire du bien aussi. Mais il va falloir bosser surtout physiquement, parce que techniquement il y a du talent dans cet effectif là, mais c'est surtout physiquement qu'il va falloir bosser.
Ouais. Pas mal de choses à dire concernant cet Olympique de Marseille. C'est vrai, on a aussi par exemple Jouba qui nous dit, bon, Jouba il est assez tranchant, hein, toujours, hein. Ben justement, Bilal, c'est Pablo Longoria qui a voulu faire du copinage encore une fois et installer son ami, voilà. Ouais, ouais, voilà. Bon, ben ça c'est Jouba qui le dit, mais Alisson, c'est vrai que cet Olympique de Marseille a tant de choses à dire. On laissera le temps, comme le dit si bien le coach Tolé, depuis l'Espagne à qui nous passons le bonsoir, et aussi Mathieu. On va s'attarder cette fois-ci sur un autre club. Ça va faire plaisir peut-être à Bruno. On revient dans la capitale française.
Time Sport. La parole des sociaux.
Eh oui, elle est assez chère, cette parole, justement, des supporters. Dimanche 8 octobre, faut le rappeler, 20h45, du côté du stade qui est le Roazhon Park, c'est Rennes qui accueillera le Paris Saint-Germain, hein, pour le championnat de la Ligue 1 Uber Eats, le Paris Saint-Germain. C'est vrai que ça a été notre débat du jour. On a rappelé, selon vous, ce qu'il faut revoir du côté du Paris Saint-Germain, hein, Bruno, hein, le système peut-être, le schéma tactique de Luis Enrique. C'est quoi le problème aussi? Parce que là, on peut pas dire qu'il n'y a pas de problème, hein. On va pas appeler ça une crise. Il y a eu un carton plein de la part des Mike Pies vis-à-vis des Parisiens.
Totalement. Il y a eu un carton plein. Il y a eu ce système un peu approximatif, je dirais, mis en place par Luis Enrique. Donc, ce qu'il faut revoir dans l'effectif du Paris Saint-Germain, en tout cas dans le système de Paris Saint-Germain, revenir à quelque chose peut-être d'un petit peu plus classique, peut-être un 4-4-3 avec Vitinha, avec des joueurs qui jouent à leur poste, avec un Mbappé qu'on remet éventuellement à gauche et peut-être un Ramos, essayer du moins un Ramos dans l'axe et un Kolo Muani peut-être aussi à droite. On voit que offensivement ça ne fonctionne pas d'avoir les quatre offensifs Ramos, Kylian Mbappé, Kolo Muani et Ousmane Dembélé devant, ça ne fonctionne pas. On voit que Ousmane Dembélé c'est un marronnier, je me répète un petit peu beaucoup, mais c'est énormément de déchets. Et si on attend de Ousmane Dembélé qu'il soit décisif et qu'il marque des buts, on pourra toujours attendre. C'est pas sa qualité première, on sait que c'est un joueur qui percute, mais c'est pas un joueur qui finit. Je le rappelle, il a marqué que deux buts l'année dernière avec le FC Barcelone. Peut-être aussi remettre Marquinhos dans des conditions favorables et voir est-ce qu'on laisse cette charnière centrale Marquinhos Skriniar, parce que Skriniar aussi malheureusement c'est pas le joueur qu'on a connu pour l'instant à l'Inter. On voit qu'il est quand même pas mal lent. On voit aussi qu'il est pas en confiance depuis quelques temps. Donc effectivement, dans cet effectif du Paris Saint-Germain, il y a énormément de choses à revoir. Mais je pense que dans un premier temps, faut remettre les fondamentaux, remettre un système de jeu qu'on connaît, dans lesquels les joueurs sont à l'aise, et ensuite, voilà, broder autour.
On a pas mal de monde. On a toujours Yanis avec Sheki, sans oublier Bruno, Alison, notre consultante, et Mathieu pour m'accompagner jusqu'à 21h. Une courte pause, la dernière, et on reviendra sur le Paris Saint-Germain avant de partir pour le Qatar et son grand prix à fin.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et oui, l'équipe donc à Riyad Mahrez a ouvert le score, c'est ça, 1-0 face à Benzema, hein, du côté de l'Arabie Saoudite, hein, dans cette confédération asiatique. Le 0153-48-3000, vous faites comme Yanis ou encore Sheki. Bon, parler du Paris Saint-Germain, on revient avec Bruno, sans oublier notre consultante Alison et Mathieu. Le Paris Saint-Germain jouera dimanche 20h45 face à Rennes, du côté du Roazhon Park, excusez-moi. C'est vrai que ça fait tant jaser. Comment le PSG va-t-il jouer? Comment le PSG va-t-il se remettre de cette claque du côté de la Grande-Bretagne face à Newcastle? C'est la question que l'on se pose, Mathieu. Hein.
Moi, déjà, je suis plutôt d'accord avec ce que disait Alison tout à l'heure.
Oui, Alison. On va entendre aussi Bruno.
Moi j'ai pas trop compris pourquoi Luis Enrique avait changé de système, parce que pour l'instant avec son 4-3-3 ça fonctionnait vraiment pas mal, et là il a décidé de faire une compo plus offensif. Alors pourquoi pas, mais je pense qu'il faut pas remettre la faute que sur Luis Enrique, parce que ce qu'on a vu
pas que l'entraîneur,
ce qu'on a vu cette semaine sur le terrain de la part des joueurs, c'est vraiment moyen, voire très très moyen.
Ouais, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon même.
Il y a des replis défensifs qui ne se font pas. Je vais pas citer de nom. Je pense que nos auditeurs sont assez intelligents.
Ah bah, ça fait sourire Bruno. C'est pas pourquoi, mais en tout cas.
Non, moi, il a raison. Ce qui me fait un peu sourire, c'est que Messi en a pris plein la figure l'année dernière quand il défendait pas. Et là, quelques-uns qui défendent pas non plus. Et c'est carte blanche. Donc moi, je comprends pas trop.
Mais personne qui a compris.
Luis Enrique a voulu innover, a voulu voir ce que ça donnait un 4-2-4. Ça n'a pas fonctionné, mais ce que les joueurs ont proposé sur le terrain, c'est pas du niveau du Paris Saint-Germain et c'est encore moins du niveau de la Ligue des Champions.
C'est pas du niveau du Paris Saint-Germain, selon Mathieu Solal. Allez, on le fait réagir rapidement avant de donner la parole à Bruno et Alison.
Il y a un truc que t'as dit oui.
Alors, c'est quoi?
Luis Enrique, c'est pas du tout de sa faute. Lui, en interview après, il s'est pas du tout détonné. Au contraire, justement, il a dit moi, j'endosse justement toutes ces critiques là et
heureusement qu'il a dit ça, ce serait dommage qu'il le dise pas sinon. Bah, c'est lui qui met en place le système.
On est d'accord sur ça, mais après vraiment il prend la responsabilité de cette défaite là vraiment à cœur, par rapport à d'autres justement entraîneurs qu'on aurait connus au PSG qui auraient un peu tourné autour du pot, essayé de parler de tactique, machin, etc. Lui, il est vraiment rentré dedans. Bon, après, à voir ce que ça va donner sur le futur. Faudrait pas qu'il s'excuse de cette manière là à chaque match, je l'espère pas en tout cas, mais voilà, fait à noter quand même en interview après qu'il prenne ses responsabilités là et qu'il endosse à 100% cette défaite-là.
Après, cela, il faudrait aussi que Luis Enrique soit un petit peu moins gentil avec ses joueurs. Parce que je trouve Luis Enrique très, très, très gentil avec ses joueurs. Je ne sais pas comment ça se passe dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, mais en tout cas...
Ouais.
En conférence de presse, il défend souvent ses joueurs et à tort ou à raison.
Au standard, justement, on va rapidement avoir Chekib. Bruno, peut-être une réaction. En tout cas, il y a une réaction qui venait de tomber, selon nos confrères du Parisien. C'est la criminalité, je cite, devient incontrôlable à Paris. C'est ce qu'avait déploré Julian Draxler, l'international allemand, hein, l'ancien joueur du PSG. On rappelle qu'il est désormais au Qatar.
Voilà. Oui, bah, après, Newcastle a super bien joué le coup, là, au milieu de terrain avec Longstaff, etc. Ils ont, au niveau du pressing, de l'intensité de Gordon, que moi je connaissais, que je connaissais que sur FIFA.
Ouais. C'est
franchement, au niveau de l'intensité, et ils ont joué tous les coups à fond, quoi. Après, aussi, ils ont de la réussite. Le but de Fabian Schär, bon, il le remettra pas deux fois. Donc, le PSG s'est fait avoir, et aussi, bon, il y a de la fébrilité, il y a Marquinhos, mais il y a aussi Skriniar qui a beaucoup de mal à s'orienter, je trouve, pour relancer proprement. Je pense que.
Et d'accord, Solal.
Je pense que ce système-là, ce 4-2-4, ne sert pas le PSG et aussi comme.
Et relancer court.
Alors, Alisson.
Et relancer court.
On va revenir à Yanis et Chekib. Ouais.
Non, mais tout simplement, on sait que la patte espagnole de Luis Enrique, c'est relancer court dans les pieds, proprement, etc. Mais je pense que quand on a un gardien comme Donnarumma qui n'est pas très adroit de ses pieds, on a Marquinhos qui tremble un petit peu à certains moments et Skriniar qui est lent et parfois pas très précis dans les relances, je pense pas que ce soit vraiment véritablement intelligent de tout le temps relancer court et dans les pieds.
Ouais, Chekib, on l'écoute, avant de revenir à Yanis aussi.
Oui, moi je voulais simplement aussi défendre un peu à contre-courant aujourd'hui Mbappé, parce que les gens souvent disent Mbappé est extraordinaire, et après on le démonte, on dit qu'il est éclaté, que c'est pas bon, il a pas montré de caractère. Notamment, on a beaucoup de confrères sur d'autres plateaux qui l'ont beaucoup critiqué. Moi, je voulais juste rappeler qu'Mbappé, quand même, on peut pas lui faire de reproches de comportemental en disant qu'il a pas la niaque, qu'il fait pas l'effort et tout. C'est lui qui a remonté l'équipe de France, qui a mis 3 buts pour remonter contre l'Argentine à lui tout seul. Donc, on peut pas dire que c'est pas un leader. C'est un leader dans l'âme. Mais c'est vrai que contre Newcastle, on n'est pas ces gens-là, même s'ils sont très forts, c'est pas des machines. C'est vrai que là, ils se sont tellement fait prendre une douche froide que même lui, il a baissé la tête. Mais ça arrive, personne ne peut être au top tout le temps. Et cette claque, encore une fois, elle est très importante parce qu'elle va leur permettre aux joueurs de se remettre en question. Et effectivement, Luis Enrique se mettre en question. Tout à l'heure, sur le plateau, j'ai oublié qui parlait de Luis Enrique. Il n'a pas compris pourquoi il a changé de système. Effectivement, on ne le comprend pas parce que son système fonctionnait très bien. Et il a changé parce que les entraîneurs, des fois, ils sont ambitieux pour leur équipe et il a mis 4 attaquants pour écraser l'adversaire. Il voulait comme une machine. C'est pas juste battre, il voulait écraser des adversaires. Et c'est bien qu'il l'ait tenté parce que ça a fonctionné contre Marseille, mais ça marche pas contre certaines équipes qui sont très 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 balèzes, très très fortes et bien regroupées. Et donc c'est bien qu'il ait fait cette tentative et c'est bien que ça a échoué. Comme ça, il sait lui aussi se remet en question et lui aussi comprend qu'il peut pas tout faire, qu'il faut une certaine logique, une certaine cohérence avec l'équipe et que tu peux pas changer un système comme ça et que tes joueurs s'adaptent tout de suite.
Ouais.
Donc moi, je vois beaucoup de positifs.
Vraiment intéressant. On écoute Alisson.
Non, j'entends ce que Chekib dit, mais je suis absolument pas d'accord. Déjà, quand on joue un match de Champions League, on n'improvise pas. Ouais. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, on improvise encore moins quand on est dans le groupe dans lequel est le Paris Saint-Germain. Juste, je le rappelle, le Milan AC, entre autres, on a aussi Dortmund, on a le Paris Saint-Germain et on a pour le coup Newcastle. Donc quand on connaît déjà le groupe du Paris Saint-Germain, qui va être serré, tout le monde va jouer les points et tout le monde va se bagarrer, on se met pas à improviser des trucs, on sort pas un truc du chapeau en disant peut-être que là ça va marcher, surtout quand on voit le match précédent en Ligue 1 contre Clermont et quand on voit que là déjà ça ne passe pas et il y a certaines difficultés. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, quand on voit ce que fait Newcastle en première ligue, parce que Newcastle est bien, Newcastle c'est pas une équipe qu'on peut écraser comme un rouleau compresseur, ça c'est pas vrai. On sait qu'en première ligue il y a énormément d'intensité, on sait que Newcastle, alors oui, je te rejoins, c'est pas des machines de guerre, mais c'est un bloc compact, ça coulisse bien et aussi ça joue, et on ne s'improvise pas quand on est le Paris Saint-Germain à mettre 2 milieux de terrain, dont qui est talentueux comme il n'y a pas, mais qui n'a que 17 ans, avec 2 milieux de terrain en Ligue des Champions. On sait que la bataille du milieu de terrain, c'est là généralement où on peut gagner des matchs, ou en tout cas on peut asseoir sa domination dans un match. Et là, les mecs ne sont que 2, c'est pas des magiciens non plus.
Ouais, justement,
Surtout qu'en face, là où je te rejoins, c'est qu'en face, le milieu de Newcastle, ils étaient 5.
Exactement.
Donc 5 contre 2, ça fait quand même...
Ouais, c'est quelque chose.
J'ai jamais été bon en calcul, mais 5, ça fait plus que 2.
Yanis, au 0-1-53-48-3000, on revient à lui.
Bah oui, pour revenir un petit peu sur le PSG, c'est dommage, même si en fait j'aurais préféré que Luis Enrique tente ça en championnat et qu'on perde de cette manière-là en championnat, mais voilà, après le Paris Saint-Germain, ça reste quand même un grand club, très très déçu quand même de... Il a, en fait, on peut pas lui reprocher, il a tenté. Comparé à des anciens coachs du PSG qui ne tentaient jamais, lui au moins il s'est excusé après et on a vu que c'était pas la bonne chose. Mais moi, la question que je vais me poser, c'est que est-ce qu'on nous a pas encore une fois vendu du rêve? Parce que un mercato à 230 millions et encore, il doit y avoir plus de 2 millions qu'on nous a cachés, mais un mercato comme ça, même si les joueurs, faut leur laisser du temps, le peu qu'on a vu n'a pas été concluant pour certains joueurs. Après, plus pour avoir une analyse profonde sur le match, Dembélé, pour moi, il a quand même été intéressant. Ouais. Il a quand même essayé de courir, mais ça n'a pas suffi. Mbappé, il a essayé
de courir. Il a essayé de courir.
Pas tant que ça.
Ouais, vous l'avez compris.
Pourtant,
c'est. Il trouve des qualités, Yanis, il est gentil.
Ah, je suis champion, je vais courir.
Bah oui, nous aussi, on essaiera de courir, Yanis.
Ah, je vais courir.
Au moins ça. On fera semblant.
On l'a compris.
Quand il a couru, il a essayé vraiment d'apporter quelque chose. Mais juste, je voulais vite faire Bilal sur un point.
Allez, rapide, avant la Formule 1.
Pas de souci. On parle très rarement, on peut, en tout cas, de Marquinhos. Marquinhos, il est là quand même depuis longtemps, c'est quand même le seul qui reste après l'échec de la remontada. Je me pose vraiment la question, est-ce qu'il ne faudrait pas tourner la page? Parce qu'on a vu vraiment la défense était à l'eau, mis à part Hernandez qui a un peu sauvé les meubles. C'est un peu le choix que je me pose. On a quand même essayé de mettre Verratti à la porte, on l'a essayé. Donc, est-ce que ça ne sera pas la dernière saison de Marquinhos s'il continue à faire des prestations minables?
Allez, peut-être la réponse avec toi, Bruno, avant de terminer avec la Formule 1.
Après, oui, malheureusement,
un gros merci à Yanis,
ça commence à faire beaucoup. Mais en tout cas, ce prochain match contre le Milan, là, va pas falloir se tromper. Là, il faudra que tout le monde soit super mobilisé. Encore une fois, Kylian Mbappé, il faut qu'il soit un peu plus, un peu moins dans cette idée de décrocher, de faire le meneur de jeu.
Il sait pas faire.
Qui est un truc qu'il sait pas faire. Et il faudra vraiment se remobiliser parce que si tu fais un résultat défavorable face au Milan, ça va commencer à se corser dans ce groupe.
Surtout que le Milan n'a pas pris un seul but depuis le début de la compétition.
Ouais. Ouais.
Et juste pour revenir à Rennes, ça sera difficile quand même d'aller gagner sur le terrain de Rennes parce que les Parisiens, si je ne me trompe pas, depuis quelques saisons, ne se sont pas imposés face à Rennes.
C'est
exactement.
Depuis 2018, je crois, si je ne m'abuse.
Donc ça sera pas un match gagné d'avance.
Genesio, c'est un des entraîneurs qui a le plus battu le Paris Saint-Germain.
Exactement.
Pour finir,
vas-y Mathieu.
Est-ce que la meilleure chose pour la défense parisienne, ce serait pas vite le retour de Nuno Mendes et Kulisse, Théo Hernandez
dans l'axe
avec Marquinhos?
Totalement.
Ouais. Malheureusement, vu comment il est blessé là, il en a encore 3 mois et demi, je pense. Donc ça va être.
Ça sera pas pour maintenant.
Voilà, Bernat qui est prêté là.
On peut mettre Kurzawa et glisser.
Bah justement, un grand merci à Yanis aussi, à Chekib d'avoir été avec nous. Justement, on va essayer de parler de Formule 1 dans cette fin d'émission avant d'accueillir Vanessa à 21h. C'est parti.
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, c'est cette course qui aura lieu justement ce dimanche 19h sur le circuit international de Lusail au Qatar et où on a pu apercevoir, Mathieu, que c'est le pilote encore une fois de Red Bull, le néerlandais Max Verstappen, qui a signé le meilleur temps de la seule et unique séance d'essais libres de ce week-end.
Ouais, il a
c'est pas mal, hein.
Il a fini.
Il est toujours là de toute façon.
La qualification s'est terminée il y a pas longtemps.
Ah oui, c'est ça.
Premier.
Il devance de 3
sur la qualif.
10e les Ferrari.
Ouais.
C'est pas faux.
Et puis George Russell qui a une belle deuxième place juste devant Hamilton et à noter les deux Alpines dans le top 10.
Les Alpines, écurie française, ça fera ton plaisir, Alisson. Hein, on rappelle ambassadeur, c'est Zidane. Hein,
7e joueur préféré. Et donc voilà, les Alpines qui ont bien réagi et il ne faut que 3 points à Max Verstappen pour être champion du monde.
Voilà. Donc c'est déjà
sur
fait.
La course sprint et la course normale, 3 points. ça devrait le faire même dès demain.
Oui, ça devrait le faire, Alisson. C'est bon. Encore une fois.
Ça devrait le faire encore une fois.
Ouais, on croyait qu'on allait apercevoir peut-être Fernando Alonso ou encore Sergio Pérez.
Quatrième, Fernando Alonso.
Ou encore même Lando Norris, comme nous disait Fala, qui nous écoute ce soir. Mais non, il est toujours là, le Néerlandais.
Il est toujours là, il écrase
encore quelques saisons, il écrase tout le monde. Peut-être ça sera la fin aussi d'un certain Lewis Hamilton, non? Ah, il devra partir peut-être, non? Ça fait sourire, il me regarde bizarrement.
C'est un peu tôt, après Verstappen, il prend tellement de victoires, il est tellement
balèze. Il est bien ancré là, ça y est, je crois que... Ouais,
il est ancré, il domine, il écrase tout le monde, ça va être dur là. Ça va être dur.
La Red Bull, ouais, il a lâché je crois les flèches d'argent
ce
là.
Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il colle 5 dixièmes au deuxième qui est George Russell. Et 5 dixièmes, c'est une demi-seconde, c'est énorme.
Oui.
Donc on voit son
en sport mécanique, oui.
Et son coéquipier n'est que 13e de la séance de qualification. Donc il y a vraiment un énorme écart entre Verstappen et Pérez alors qu'ils sont dans la même écurie.
Oui.
Donc à se poser la question, on va peut-être ouvrir le dossier Pérez, de se dire peut-être un jeune pilote ou un autre pilote pour le remplacer. On avait dégagé d'une manière assez horrible Pierre Gasly il y a quelques années.
Oui,
pour moins que ça. Donc peut-être ouvrir le dossier Pérez, parce que c'est vrai qu'il y a un écart vraiment
monumental. Ouais, c'est ça. Un grand merci à Mathieu de m'avoir accompagné. Et oui, en ce début de week-end, Mathieu il va se reposer, qu'on pourra retrouver dès la semaine prochaine, tout comme Alisson. Et avec la visite surprise de notre Bruno Ohio, qui était là avec nous. Eh Bruno, on n'a pas le temps de le voir, Bruno, sur d'autres médias de nos confrères à l'international. Vraiment un plaisir, Bruno.
Merci, Bilou.
À toi, un grand plaisir aussi à Solal de nous avoir réalisé ce soir sur l'antenne de Beurre FM, la radio préférée de nos auditrices, de nos éditeurs, toujours de plus en plus nombreuses et nombreux. Faites péter justement le standard. Vanessa arrive 21h-23h et très bon week-end à toutes et à tous.
Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.